du coq à l'âne.
Ok, 3, 2, 1, let's jam.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver, numéro 741 du Coq à l'âne, la nouvelle version du Coq à l'âne, hein, que vous retrouvez désormais une fois par mois en podcast sur alpe1.com. Retour à Briançon pour cette fin d'année, retour à la taverne chez Jean-Michel Tirole avec autour de la table Philippe Stockley.
Bonjour.
Yves Honoré, bonjour, bonjour messieurs, et notre invité Guillaume Lebigauf.
Bonjour.
Alors, comme d'habitude, bonjour Guillaume, on va commencer avec l'édito de Philippe. Tu nous parles de quoi aujourd'hui?
Bah Thierry, je suis obligé une fois de plus de mettre sur la table deux caractères. Un sujet qui ne respire pas les guirlandes et les papillotes, hein, je suis désolé. Le contraignant sujet sur l'emploi. En fait, je voulais dire le laborieux sujet sur l'emploi, mais ça faisait une répétition. Nous en avons déjà parlé souvent autour de cette table de caractère, de l'emploi en particulier avec Guillaume, patron des Chalets Berrou, qui lui, comme tout le monde, bute sur cet éternel écueil qui est de trouver du personnel pour son entreprise. En France, qui dit emploi, dit Pôle emploi. Enfin, disons que cette administration est la représentation officielle du marché du travail, même si tout le monde, ou presque, sait que le bouche à oreille est souvent plus rapide et plus efficace que la branche officielle. Mais bon, aujourd'hui les plus résignés en sont même à penser que les bouches sont muettes et que les oreilles malentendantes. Mais bon, restons-en quand même sur le sujet Pôle emploi. Au fait, vous savez que Pôle emploi va changer de nom. Elle devrait devenir France Travail. Bon, on est à la radio, donc l'appellation peut porter à confusion, donc il faut jongler avec les intonations.
C'est important, ça.
Eh oui, je pourrais par exemple dire « Allez, France travaille ouais. » ou « La France doit se mettre au travail ». Donc, je ne sais pas qui a trouvé cette appellation, mais ça sent là.
C'est tendu.
Ouais. Bon, pour l'instant, c'est encore Pôle emploi, et je n'arrive pas à jongler avec Pôle emploi. Hein. On n'en était pas encore au deuxième degré à l'époque. Mais c'est vrai que ça aurait pu être Pôle labeur, Pôle besogne, Pôle corvée, Pôle gagne-pain, Pôle occupation. Henri ?
Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os.
Merci Henri. Donc je suis allé sur le site de Pôle emploi, plus précisément sur la page de l'agence de Briançon, et j'y ai trouvé 480 offres le 13 décembre dernier. Précisons qu'à Gap, il y en a quand même 780. Disons plutôt qu'il y a environ 300 offres effectives, vu qu'on y retrouve souvent la même annonce à plusieurs dates, bon, et que certaines offres ont dû être pourvues sans être supprimées. Mais bon, 300 offres d'emploi à Briançon, c'est quand même pas mal à une semaine de l'ouverture de la station. Parlons tourisme pour commencer. La saison d'hiver a débuté avec ce qu'il faut de neige et de soleil, mais au 13 décembre, il y avait encore 40 offres non pourvues dans la restauration. On en parlera d'ailleurs du commentaire que nous a fait Jean-Michel Tirole sur la branche de la restauration. 22 offres en hôtellerie, dont la moitié pour le Club Med, et 28 offres en entretien de locaux touristiques. 90 offres non pourvues à une semaine du départ de la saison. Une particularité à Briançon, la branche formation, santé, sociale, animation, elle cherche 42 personnes à ce jour, dont 35 pour la seule fondation Edith Selzer. Le commerce propose, lui, 24 postes, et pour finir, au hasard des métiers, 2 garagistes, 1 facteur, 3 comptables, 2 agents funéraires, 3 coiffeurs ou coiffeuses, pas moins de 6 médecins généralistes et un maître nageur.
Ouais.
Et je termine avec le bâtiment, à la recherche de 24 offres, dont quelques-unes déposées par les Chalets Berrou, qui cherchent, d'après Pôle emploi, un dessinateur, un menuisier, opérateur commande numérique et des charpentiers. On en reparlera avec Guillaume tout à l'heure. Voilà, toutes ces offres d'emploi à une semaine du début de la saison d'hiver. Soit on dit que c'est inquiétant, soit on dit que c'est la réalité d'aujourd'hui. Mais on peut aussi dire que la réalité d'aujourd'hui est inquiétante. Aujourd'hui, Pôle emploi revendique une situation de plein emploi. Tu l'as entendu à Briançon et à Digne. Dans leur langage, un brin décalé, cela veut dire en gros que tout le monde a du boulot. Sauf ceux qui n'en ont pas. Langage tellement décalé qu'il devient incompréhensible. Un plombier de mon village cherche un ouvrier pour l'aider. Ça fait trois mois qu'il cherche. Et quand un candidat se présente, il s'entend répondre qu'il y a trop d'heures par semaine, que sans expérience, il demande 2500 euros net par mois, et qu'il préférerait ne pas travailler le lundi matin parce que le week-end, il va chez ses parents. Le plombier continuera à travailler seul, les chauffe-eau vont encore peser lourd sur ses épaules. Ma coiffeuse, oui, je sais, ça ne se voit pas. Ma coiffeuse, elle est aussi désespérée. Elle va attaquer sa saison seule, alors que le salon fonctionne à bloc au pied des pistes de Sercheux. Elle ne trouve personne, même en promettant un joli salaire et même une forte probabilité de CDI. Les quelques candidats ou candidates qu'elle a eus au téléphone lui ont dit qu'il fallait travailler trop d'heures Il y en a même un qui lui a demandé si elle fournissait le forfait de ski. On est toujours dans l'incroyable décalage entre ce que les chefs d'entreprise vivent au quotidien et ces discours surréalistes de l'administration, un peu loin des réalités, ou des candidats qui semblent arriver d'une autre planète. Mais le plein emploi de Pôle emploi, ça peut sous-entendre que celui ou celle qui cherchait un travail en a trouvé un. Et malgré ça, il reste 300 offres à Briançon. Donc il faut comprendre qu'il manque de la main d'œuvre. Mais le plombier ne trouve toujours personne et la coiffeuse se prépare à travailler seule 12 heures par semaine, par jour par exemple.
Oui.
Eh oui. Quand j'avais 18 ans, on avait honte de se retrouver sans emploi, même pour une semaine. Aujourd'hui, j'entends des salariés saisonniers qui se défendent d'avoir droit à 4 mois de chômage par an parce qu'ils en ont travaillé 8. La modernité, sûrement. J'ai vraiment du mal avec la modernité, parfois. Tu ne devrais plus me laisser faire des éditos à mon âge, Thierry. Ou alors je vais m'en remettre à mes jeunes collègues. J'aurais bien voulu Jean-Paul, mais Jean-Paul s'est fait mal aux pieds sur une plaque de glace. Donc je m'en remets à Yves, qui va peut-être me rassurer sur le sujet. Sincèrement, ce serait un joli cadeau. Enfin, joyeux Noël à tous.
Oui, ça va, joyeux Noël. On va demander tout de suite à Monsieur Le Bigot de nous dire un petit peu ce qu'il pense de ce petit édito.
Si je dois parler de Pôle emploi objectivement, c'est un peu dur. C'est vrai que pour eux, ils sont au plein emploi. On a 8-10% de chômeurs et c'est plein emploi. Ouais. On ne sait pas comment remettre les autres au travail.
Ça veut dire en fait que le plein emploi en France, c'est 10% de chômeurs.
Ouais, bah, en ce moment, ils le disent, hein, même au gouvernement. Moi, je suis moitié suisse, moitié français. Plein emploi en Suisse, c'est 1,5%. Il y a beaucoup de pays européens où ils sont en plein emploi en ce moment. Nous, on fait avec, on dit qu'on a des chômeurs qu'on ne mettra pas au travail. Ils s'attellent à faire la réforme de la retraite. Moi, je ne vois pas ce qu'on vient emmerder les Français à 60 ans qu'on travaille, qu'on mette déjà les autres au travail. Et vous verrez qu'il n'y aurait pas de problème de retraite. La réforme la plus importante, ils ont déjà fait un petit bout, mais c'est la réforme du chômage, bien sûr. Parce que même si dans certains métiers, il y avait des problèmes de salaire et c'était les jeunes n'allaient pas vers ces métiers. Ça a été flagrant pendant le confinement. Aujourd'hui, sur les offres d'emploi qu'on voit passer, les salaires ont tous été réévalués. Et aujourd'hui, les jeunes, même 2000-2005, pour nous, on se rapproche plutôt des 3000 dans le bâtiment. Parce que tout le monde dit, j'entends toujours à la télé, à la radio, que le bâtiment est mal payé. Bah, venez regarder la grille de salaire chez Bérou. Moi, j'ai pas de problème, je vous ouvre le classeur. Mmh. C'est encore autre chose que la coiffeuse ou chez Jean-Michel, les salaires. Et on a quand même des jeunes qui viennent travailler dans nos boîtes, heureusement. On n'a plus de saisonniers. Ça, c'est moi, quand je suis arrivé chez Bérou il y a 20 ans, il y avait 15 saisonniers. Aujourd'hui, il y en a zéro. Donc les saisonniers, c'est ce qu'a dit tout à l'heure M. Stoklis et Philippe, ils travaillent 8 mois, ils veulent 4 mois de chômage. Donc là, la réforme a un peu évolué pour eux. On n'a plus les saisonniers, on n'a plus les moniteurs de ski, on n'a plus les skiman. C'était quand même une région qui était faite pour ça, parce qu'on avait même des écoles qui faisaient le monitorat de ski et CAP de menuiserie de charpente. Donc c'est un travail, nous on a pratiquement une personne à temps plein chez Bérou qui recherche des salariés, du personnel. Et bon, on met sur Pôle emploi pour la forme, mais bon, aujourd'hui on est sur les réseaux sociaux, ce qui marche pas un peu. On a des boîtes de recrutement, on a des boîtes d'intérim qui marchent pas mal. C'est pour ça que moi la NPE, enfin le Pôle emploi ou France emploi ou je sais pas, France travail, moi je basculerais ça vers des entreprises d'intérim privées qui elles ont des objectifs et qui remettent quand même des gens au boulot, qui moi j'en vois, qui réinsèrent des gens. C'est leur métier. Je pense que si un truc à privatiser en France, c'est bien ce domaine là. On peut pas rester à vie avec 10% de chômeurs en se disant qu'ils retravailleront jamais. Et en plus, aujourd'hui, il y a un changement de génération. Quand Philippe dit je suis peut-être trop vieux, moi c'est pareil, j'ai 50 ans. Nous, on risquait pas d'être un jour ou deux ou une semaine au chômage, sinon je pense qu'on n'aurait jamais remis un pied chez nos parents. Aujourd'hui, c'est dans la tête des jeunes, ils travaillent, puis après ils prennent un moment, puis après ils travaillent. En fait, nous, le boulot, c'était quand même l'objectif numéro un, quoi. Et aujourd'hui, ça passe en deux ou en trois. Les loisirs en premier, Donc aujourd'hui ça coince parce qu'avec l'inflation, c'est quand même de plus en plus dur. Donc aujourd'hui, c'est sûr qu'il faudrait remettre le boulot en numéro 1, quoi.
Ouais.
C'est clair.
Dans l'édito de Philippe, il parlait des chalets Bérou, bien sûr. Tu as quelques annonces chez Pôle emploi que tu mets parce que, bon, c'est Pôle emploi. Tu as réussi à trouver ou pas là?
Oui, on en trouve un ou deux par semaine parce qu'on est sur les réseaux, parce qu'on a notre réseau de compagnons, parce qu'on est sur tous les fronts. On a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont bien. On a eu entre les anciens là, après 50 et les 20 trentenaires d'aujourd'hui, on a eu un creux. Voilà, mais je pense que c'est général au bâtiment. On a peut-être moins formé. Aujourd'hui, on a quand même des jeunes d'un bon niveau qui arrivent à l'entreprise. Et je me permets au passage, comme il va y avoir une nouvelle école du bois à l'Argentière, dont je suis administrateur. Et donc, on va former des jeunes qualifiés. Mmh. Parce que pour qu'il y ait des jeunes d'un bon niveau dans nos métiers, il faut pouvoir leur promettre des diplômes gratifiants. Donc, aller jusqu'au diplôme d'ingénieur. Donc normalement, si tout va bien, l'Argentière, on va faire une école comme à Épinal ou à Nantes, donc une INSTIB.
INSTIB.
Voilà, et donc ça, c'est sur les bons rails. Et il faut, moi je regarde toujours les maçons qui n'ont jamais formé, et aujourd'hui, ils n'ont plus de main-d'œuvre française, c'est main-d'œuvre étrangère. Voilà, aujourd'hui, il faut faire de la formation avec des diplômes gratifiants et de l'apprentissage. Pour pouvoir attirer nos jeunes dans nos métiers.
Yves, alors, une réaction
sur la formation, moi je trouve que ce que vous dites est tout à fait exact. Là où je trouve un peu dommage par rapport à ce qu'a fait le gouvernement, c'est qu'ils ont renversé les rôles, ils ont dit ce sont les salariés maintenant qui peuvent choisir leur formation. Ce qui fait qu'il y a des escrocs qui téléphonent régulièrement chez les particuliers pour leur demander où est-ce qu'ils en sont de leur formation. Et éventuellement, ils arrivent à décrocher le numéro de sécurité sociale, ils ouvrent des plans de formation à la place des gens, ils envoient des factures bidons à l'administration et ils sont remboursés. Ou alors, c'est des formations qui sont pas bidons, mais qui sont inintéressantes et pas du tout en lien avec les métiers des gens. Et je pense que là, c'est vraiment une erreur stratégique. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'argent qui sont dépensés dans la formation, mais qui n'est pas efficace. Comme Monsieur Le Bigot le promet, les formations adaptées sur le bois, on sait qu'il y a du boulot et qu'il y a de la demande. Si on fait des formations sur le tai chi ou sur le yoga, il y a de la formation aussi, mais peut-être moins. Donc il faut aussi peut-être revoir cette histoire de formation pour que ça soit entre le salarié et l'employeur vraiment discuté. Et non plus laisser uniquement le salarié décider de ses formations.
Mais tu as raison, moi je reçois, je ne sais pas si vous en recevez aussi, mais pratiquement toutes les semaines, j'ai un SMS pour mon formation.
Moi je reçois, je suis en retraite depuis 2 ans.
Ouais, mais même pour les retraités, ils s'en foutent.
C'est un truc de fou.
Ils les draguent encore en disant vous avez encore des droits à la formation. Et en fait, c'est des droits pour eux, pour se gaver de pognon. Ouais.
Guillaume, tout. C'est le CPF, ouais, c'est une honte. Là, il y a eu le HOLA par le gouvernement, c'est arrêté. Mais c'est des milliards qui ont été payés par le contribuable, enfin payés par l'administration, alors que tout le monde savait que c'était bidon. Et le peu de formation qui n'était pas virtuelle, c'était nul, quoi. Donc aujourd'hui, c'est sûr que c'est bien de se former pour ses loisirs, mais je pense que là, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont déjà pris les devants. Il faut se former dans son métier. Nous, on a des métiers qui évoluent rapidement. Donc moi-même, je me forme, mes gars se forment, on a nos logiciels qui évoluent tous les ans. On travaille aujourd'hui avec des robots, avec de l'informatique. On doit se former dans nos métiers pour accéder à un niveau toujours supérieur dans les entreprises, pour un jour pouvoir les reprendre. Même moi, je pense déjà à la transmission d'entreprise, parce que j'ai 50 ans, il faut 10 ans pour transmettre une entreprise comme il faut. Et y a des jeunes chez nous qui valent le coup pour reprendre ces boîtes. Mais il faut les former, il faut les accompagner. Et quand je vois c'est les SMS qu'on recevait, les CPF bidons, ça c'est une honte, c'est une honte.
Alors, Philippe, oui, vas-y Yves.
Non, c'était juste sur l'histoire de l'emploi pour revenir là-dessus. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce que disait Monsieur Le Bigot, mais c'est général.
Tu peux l'appeler Guillaume.
Guillaume, ouais. c'était sur le fait que maintenant il faut draguer les salariés et il faut qu'on ait des sites attrayants, il faut qu'on vende non pas uniquement un travail, mais une ambiance, un savoir-faire. et puis s'occuper des conjoints quand on habite dans des pays reculés comme les nôtres, parce que si les gens ils viennent avec des épouses ou des époux, enfin maintenant il faut être moderne, mais dans l'idée, il faut savoir que c'est pas uniquement l'entreprise qu'on vend, c'est un ensemble. Et plus le site, moi j'ai été voir par curiosité le site des Chalets Bérou, il est bien construit, il est beau, il y a de la musique, enfin bref, on sent que c'est une entreprise qui tient la route. Et c'est vrai que si toutes les entreprises avaient cette méthodologie, ça irait mieux peut-être, parce que les jeunes sont, c'est vrai, très exigeants. Et comme ils savent qu'ils sont un peu les rois, puisque c'est eux qui décident s'ils acceptent ou pas un boulot, alors que nous, à notre époque, on était contents d'avoir une proposition.
Oui, juste une parenthèse sur la formation. Maintenant, la formation est assimilée à l'inactivité. Je crois que la génération qui arrive est attirée par l'inactivité. Hein, c'est-à-dire que Jean-Michel, le patron du resto, oui, nous disait « J'ai un serveur qui est parti en formation de mini-belle. » Pourquoi ? Ben, le gars, il a compris, c'est une semaine tranquille, bien avec le salaire maintenu. C'est quand même étrange et un peu dérangeant que la formation soit assimilée à ça maintenant. Enfin, j'espère que... Et une autre petite parenthèse, tu parlais des conditions d'accueil des Chalets Bérou. J'ai beaucoup aimé une annonce sur Pôle emploi où c'est bien précisé que dans l'atelier, il y a le chauffage par le sol.
c'est important.
Génial. Non, mais c'est...
C'est vrai que c'est important. De toute façon, pour attirer des jeunes, il faut mettre tout de son côté. Nous, aujourd'hui, on a beaucoup de choses, mais on n'a pas de crèche. Et c'est un handicap parce que quand on reçoit des couples, y a toujours un problème de crèche à Briançon.
Ouais.
Et donc, nous, aujourd'hui, on réfléchit. Bon, on n'a pas trop de place, mais on réfléchit à faire une crèche. Et moi, j'ai des collègues... des confrères qui ont fait ça dans le bâtiment. Bon, faut avoir des boîtes d'une certaine taille.
Oui, bien sûr.
Mais nous, si on avait une crèche avec une nounou, on attirait déjà beaucoup de monde. On aurait moins de problèmes d'absents. Parce que quand les gamins sont malades, faut forcément qu'un des deux parents est obligé de rentrer à la maison. Donc, on y réfléchit, quoi.
Il faut peut-être réfléchir avec d'autres entreprises.
Oui, faire une crèche privée.
Ouais, exactement. Puisque un peu comme tu parlais tout à l'heure, enfin je dis vous parliez de l'histoire.
Non, mais tu peux.
c'était sur le fait qu'il faut privatiser le pôle emploi. Là, de la même manière, pourquoi pas se regrouper et entre entreprises dire on fait une crèche commune et puis on s'émerde. Parce que sinon ça passera pas.
Donc à ce jour, Guillaume, tu cherches du personnel?
Ben nous, on cherche tout le temps.
Tout le temps.
En fait, ça fait 20 ans que je suis chez Bérou, ça fait 20 ans qu'on cherche. Et on cherche tout le temps parce qu'en plus, il y a quand même un petit turnover. Nous, on a l'avantage d'avoir une entreprise en Suisse et une antenne en Haute-Savoie. Donc souvent, les jeunes, ils aiment bien aller, ils veulent aller à Megève. Là, j'ai une décoratrice qui, son mari, a été muté à Crans-Montana, donc je l'ai mise sur le bureau suisse. On a quand même cette chance-là, sinon on l'aurait perdu. Après... dans les Alpes du Sud, pareil, on a une antenne au rond Isola 2000. Donc on arrive quand même à motiver les jeunes parce qu'on arrive à les déplacer. C'est vrai qu'ils veulent aussi souvent se déplacer. Et puis chez nous, tu peux toujours monter rapidement. Alors, c'est un peu le propre du bâtiment. Moi, je vois des jeunes qui rentrent dans des banques ou dans l'administration, ils ne montent jamais, quoi. Toute ta vie, tu as ton salaire et c'est pas motivant. Nous, tu montes très vite si tu veux prendre des responsabilités. Mais on a une recherche permanente parce que déjà, là, on est sur une vague de retraités. On en a 5-6 qui sont partis, on a encore 5-6 qui partent. Et puis, c'était des postes à responsabilité. Là, on a un chef d'atelier que tu connais là, qui va s'en aller, Alain. Donc, lui, il faudrait en embaucher 3 pour le remplacer parce que lui, c'est l'ancienne génération. Donc, tout ça, ça se prépare et bon, on est obligé d'anticiper. Hein.
Alors moi, j'ai un truc marrant que j'ai vu sur le site, mais peut-être que c'est attrayant aussi. Moi, ça m'a fait marrer, c'est que dans les partenaires des Chalets Bérou, il y a Carolo sculpteur, et en fait, il fait de la sculpture sur bouse de vache. Donc c'est vrai que ça, c'est assez amusant. Peut-être que les jeunes, ça les intéresse d'avoir une entreprise qui fait des partenariats avec un sculpteur sur bouse de vache. Et en réalité, quand j'ai vu ce qui était fabriqué, ça a l'air d'être sérieux et sympa.
Oui, c'est il fait des têtes de cerf, il fait des animaux. C'est assez, au début, c'était pas connu. Il a exposé dans nos chalets. Aujourd'hui, c'est assez connu. Ça coûte même un petit peu cher. C'est comme les lampes en carton. On a démarré ça chez nous. Maintenant, ça coûte un peu plus cher. Et en plus, c'est vrai que nous, aujourd'hui, on veut avoir une qualité environnementale. parce que nos clients y sont attachés, parce que nous, nous y sommes attachés. Mmh. On veut faire des chalets quasiment passifs. Donc c'est vrai que c'est des métiers intéressants. Mmh. Et c'est pour ça qu'en ce moment, on a attiré des jeunes d'un bon niveau, de bonne qualité, parce qu'on tend vers ça. Mmh. C'est sûr que demain, si vous faites du pavillon ou du HLM, vous allez avoir moins de jeunes qui vont vouloir venir chez nous. Mmh. Bon, après, il y en a beaucoup qui veulent venir travailler chez Bérou. Et puis après, il y en a quelques-uns qui partent. Parce que nous, on est quand même une boîte qui bosse. Et moi, je suis encore patron. Et bon, je suis encore un peu...
Oui. Ancienne génération. On veut parler du patron.
Voilà. Donc, bon, ils restent pas tous, quoi.
Ouais, ouais.
Ceux qui restent, c'est des jeunes bosseurs qu'on a quoi.
Guillaume, ouais. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent, en fait, aujourd'hui, s'il y a du chômage en France, c'est parce que les salaires sont trop bas. Qu'est-ce que tu réponds à ça?
Il y a des branches dans lesquelles c'est trop bas. Aujourd'hui, moi, je ne serais pas professeur des écoles où je n'irais pas travailler dans l'administration. Mmh. Parce que je trouve que les salaires sont trop bas. Mmh. Alors l'administration, selon ce qu'ils font, ça se défend. Parce que quand je vois aux impôts, avant, ils avaient du boulot. Aujourd'hui, on leur remplit tout avec les entreprises. Mmh. Ils n'ont jamais débauché, ces gens-là. Par contre, être professeur des écoles aujourd'hui, je les ai beaucoup critiqués. Mais aujourd'hui, je pense qu'on ne les motive pas. Mmh. Après, dans la restauration... Ils ont eu l'aide de la TVA, je pense qu'ils n'ont pas joué le jeu. Aujourd'hui, ils payent cash, donc ils sont en train de rectifier le tir. Dans le bâtiment, si vous voulez faire venir des jeunes dans le bâtiment, ben faut très très bien les payer. Mm-hmm. Nous, salaire moyen chez Bérou, c'est 2 500 € net par mois, mm-hmm. avec le véhicule, avec tout. Aujourd'hui, nous, faut payer le gasoil pour qu'ils viennent bosser, faut leur payer le gasoil, leur filer une bagnole, voilà. C'est quasiment obligatoire. De toute manière, si vous avez le SMIC à Paris et que vous devez payer votre transport, vous pouvez pas vivre. Il faut être sérieux.
Logement surtout.
Ouais, logement, bon, c'est vrai que nous, ici, on a, même si Briançon c'est assez cher, l'avantage du bâtiment c'est que les jeunes arrivent à se rénover un appart, à se construire une maison, avec l'aide de l'entreprise, c'est quand même un gros avantage. Voilà, il y a des branches où il y a des problèmes de salaire. Quand vous voyez les gars de Total qui font grève ou les dockers, ça fait un peu mal au cœur parce que tous les Français ne touchent pas ça. Mmh. Il faut que tout le monde y mette du sien, il faut augmenter les salaires, il faut faire des efforts sur le gasoil.
Et ça nous amène à la grève SNCF. Ouais. Est-ce que la grève SNCF, est-ce que les employés de la SNCF ont raison d'en remettre une couche régulièrement et notamment au moment des fêtes parce que ça fait 6 ans, je crois, que leur salaire a été bloqué.
Bah, au niveau environnemental, on devrait leur interdire parce que tout le monde prend de sa bagnole. Donc c'est pas bien.
Ouais.
Je veux dire, le train, c'est bien. Moi, le train, je prends toujours le train quand je vais à Paris. Mais quand il y a la grève, ben, je prends ma voiture. Moi, rien que par rapport à l'environnement, je leur interdirais de faire grève. Et c'est vrai qu'ils choisissent leur moment.
Ah oui. Sinon, c'est pas intéressant. C'est 2 heures d'emmerdement maximum, de toute façon.
Sinon, c'est pas marrant.
Ben, voilà.
Mais je fais un tout petit retour sur le... Le montant des salaires, 2 500 par mois, il faut quand même pouvoir le faire. Quoi. L'entreprise doit pouvoir le faire.
Bah nous, on...
Tu peux ?
On peut parce que c'est une volonté de l'entreprise. Après, vous pouvez regarder nos bilans sur Internet. Hein. On fait 17 millions de chiffres d'affaires, on gagne 1%. Donc on ne roule pas sur l'or.
Tout en fournissant 2 500.
Voilà, si on fournissait moins...
On gagnerait plus. Non, mais ça, c'est normal.
Mais on aurait peut-être moins de jeunes. Aujourd'hui, nous, on fait des chalets de qualité. On cherche la qualité. Nos clients sont des gens qu'on réussit, qui ont beaucoup bossé, qui ont des gros moyens. Donc, il y a une exigence incroyable. Donc, nous, on est exigeant avec nos salariés. Donc, quand vous êtes exigeant, vous êtes obligé de bien les payer. Après, moi, ce qu'il faut, c'est que la boîte tourne, c'est qu'on équilibre. Si on fait un peu plus, on fait un peu plus. On fait la prime Macron, tout ça, on a ça tous les ans. Après, tant que ça marche, c'est bien. Quand ça se tend, on a connu des périodes beaucoup plus compliquées. Là, pour enlever les primes, c'est plus dur. Dans l'autre sens, c'est vrai que nous, on roule un peu 4 étoiles, faut se le dire. Ça marche. Quand on est dans des bonnes années comme cette année, ça marche bien, c'est facile. Et quand c'est plus dur, ça se complique pour nous.
Alors je vais faire un petit parallèle, je ne sais pas si tu vas l'apprécier, Guillaume. Tu as la tête en fait de 2 entreprises, une qui fonctionne donc à merveille, hein, les chalets Bérou, et puis une autre, il y a un petit peu de plomb dans l'aile.
Je ne vois pas de laquelle tu veux parler.
C'est le hockey.
Ouais.
Alors, On en est où là? Et c'est quoi l'avenir?
Je me suis dit, il n'y a pas Jean-Paul, ils vont me lâcher avec ça.
Le manque de bol, manque de bol, ça arrive quand même sur le tapis.
Non mais voilà, très rapidement, parce que bon, c'est quand même un truc qui tient à cœur.
Ouais. Le hockey, financièrement, c'est géré comme chez Bérou. Donc, on n'a pas de déficit, on a des bénéfices là depuis 2-3 ans. De toute façon, quoi qu'il arrive, quand quelqu'un voudra bien me remplacer, je laisserai le club avec zéro déficit, parce que c'est ma façon de faire. D'ailleurs, quand on m'a mis à ce poste, c'était bien pour ça. Aujourd'hui, on est dernier. Il y a des grandes chances qu'on finisse dernier. Notre place est en D1. On n'a pas les moyens aujourd'hui. Il n'y a pas une volonté politique. Et c'est trop dur pour nous de rester en minus. C'est même pas intéressant d'avoir 3 matchs par semaine avec pas beaucoup de public et de perdre tout le temps. En D1, on serait à notre place, on aurait un match tous les 15 jours avec plus de facilité pour gagner. Donc quoi qu'il arrive, moi j'ai écrit à la fédération pour leur dire que si on finissait dernier sportivement, il faut qu'ils nous laissent aller en D1. Mmh. Parce que forcément il y a encore un club qui va sauter en fin d'année, que les clubs de D1 ne sont pas préparés à monter financièrement. Donc là ils sont au courant, donc je pense qu'ils vont se préparer à faire monter un club de D1. Moi celui que je vois le plus apte à monter, c'est Marseille, parce qu'ils ont une belle patinoire, c'est plein tout le temps. L'autre jour, j'étais voir un match avec 4500 personnes. Bon, c'est une grosse ville, c'est voilà. Donc, ils vont se préparer à faire monter quelqu'un. Bon, entre-temps, il y a quand même des clubs qui ont du plomb dans l'aile. Mulhouse, il y a le nouveau président et l'ancien président qui ont été mis en examen.
Ouais.
Bon, ça les empêche pas de gagner. Hein. C'est...
et oui.
C'est comme les Argentins, ils sont terribles.
Mais ouais.
Voilà, le hockey, c'est maintenant, c'est un... Avant c'était une passion, ça m'amusait, maintenant c'est un poids. Je continue tant que j'ai pas trouvé quelqu'un de sérieux pour prendre la présidence, parce que je veux pas laisser le club... C'est facile de prendre la présidence, mais après il faut la lâcher, c'est comme une entreprise, il faut la lâcher dans de bonnes mains. Donc peut-être que quand on sera en D1, le poids sera moins lourd, il y aura moins de pression et je trouverai plus facilement un président pour me remplacer, un passionné, quelqu'un qui sportivement fera bien mieux que moi, il n'aura pas beaucoup de mal. Puis moi je pourrais toujours aider pour gérer les comptes. Voilà. Mais aujourd'hui la réelle place de Briançon, elle est en division.
Et en division 1, il y aura plus de monde qui viendront voir les matchs, parce qu'il y aura moins de défaites sûrement.
On a fait 3 saisons en division 1.
Oui.
Et on faisait 1500-1800 places par match. Aujourd'hui, on est plutôt à 500.
Et oui.
Et puis, en fait, en D1, on était super bien. Et on est monté bizarrement. Parce qu'en quart de finale à Marseille, on doit perdre. On met un pénalty incroyable. Enfin bref. Et puis après, après une équipe, tu peux pas l'arrêter. Parce qu'à Noël, on était dernier. C'était la cata. Et après, cette équipe, elle s'est mise en route. Et demi-finale, finale, ils ont gagné. Ils auraient battu n'importe qui. Et j'étais pas déçu de finir premier. Je me suis dit, bon, on va repartir dans des galères en minus. Et puis en plus, bon, après, il y a eu des années Covid, tout
ouais,
ça.
Ouais, c'était ouais, compliqué. C'est ça.
Et aujourd'hui, en plus, il y avait une réelle passion à Briançon quand je suis arrivé, moi, en 97, là, pour le hockey. Aujourd'hui, ça se passe un petit peu quand même.
C'est ce que tu disais à l'instant, tu parlais de volonté politique. Il n'y a pas la volonté politique.
Non, voilà. Pour avoir une grosse équipe, il n'y a pas la volonté politique. Ils nous ont déjà baissé le budget, j'espère qu'ils baisseront pas encore, mais il n'y a pas une réelle volonté politique. Et puis, on est donc de toute manière, on est au max des subventions publiques et puis privées. Privées, bon, moi je tourne quand même pas mal dans le bâtiment, j'arrive à ramener un peu de l'argent. On est sur une bonne année 22, 23 ça va être peut-être un petit peu plus compliqué. Et puis après, on va arriver dans des années où il y aura des coupes budgétaires dans tous les sens. Les privés, si c'est plus dur, ils vont pas lâcher des sous pour le hockey. Voilà, moi je l'avais déjà dit il y a plusieurs années. À terme, pour avoir une grosse équipe dans les Hautes-Alpes, il fallait fusionner avec Gap. On s'est bien aperçu que c'était pas possible. C'était comme fusionner Lyon et Saint-Etienne au foot. Il y a déjà Saint-Etienne qui est en D2, mais peut-être que Lyon, vu que la vente, on voit que ça marche pas, il va suivre. On a vu Villard-de-Lans qui a pas voulu faire avec Grenoble. Et Briançon Gap.
C'est des querelles d'échappée.
C'est
des
voilà, exactement. Et puis, bon, bah, Gap à terme, ils auront autant de mal que nous. Et voilà, même si sportivement, c'est bien, ils sont bien meilleurs, mais ils ont un budget qui est un peu supérieur à Briançon, mais qui, dans pas longtemps, va pas du tout suffire. Mmh. Nous, quand on était champion de France, on avait 1,5 million de budget.
Mmh.
Grenoble et Rouen avaient 1,8 million. Mmh. Hein, nous, aujourd'hui, on a 1. Les autres, ils ont 4. Grenoble a 6. Donc aujourd'hui, l'écart, il est 3 Paris Saint-Germain au foot, quoi.
Ouais,
il y a trop d'écart.